3, 4. El gol para City. Et Kevin De Bruyne. El gol para City. Et Kevin De Bruyne. Kevin.
Ah, il s'arrête pas lui.
Kevin. Kevin De Bruyne. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Clubhouse Football Time. On vous l'avait promis dans la communauté, on le fait, l'émission évidemment qui parle de football sans se prendre au sérieux. On est bel et bien présent, on vous l'avait promis, il est là, bienvenue dans un nouvel épisode. Et mon chanteur, mon associé, évidemment, Quentin, il est là avec moi. Comment ça va mon Quentin?
Ça va très très bien, très content d'être là. Toujours parler de notre championnat adoré, et championnat qui est vraiment palpitant, que ça soit... pas trop dire des playoffs 2, mais des playoffs 1 et des play-down, c'est incroyable. Et chaque semaine, on a encore à dire et on aura encore à dire. Et donc, c'est top.
On a eu vraiment une semaine absolument passionnante. Mon Thomas, bonjour.
Bonjour, bonjour. En tout cas, je suis content d'être ici à nouveau. Ça, c'est un petit moment. Et heureusement que ce n'est pas une émission de chant parce que vous êtes vraiment catastrophique.
Kevin Kevin
ouais, Kevin, ça ne veut pas dire que vous devez recommencer là.
Ah non, c'est exceptionnel. C'est un extrait qu'on a vu sur les réseaux et qui nous avait fait beaucoup rire. On s'est dit, on allait vous faire la surprise.
Ah oui, là,
Julien était le premier surpris. Comment ça va, mon Julien?
Ça va, Sacha, je te remercie.
Ouais, je suis très, très content. Bon, évidemment, si vous ne connaissez pas Julien Gorius, je pense que vous ne connaissez pas la JPR Pro League parce que c'est un membre éminent, bien évidemment, un ancien joueur passé par le KV Mechelen, passé par le KRC Genk, également passé de l'autre côté en tant que directeur sportif du RWDM. Et aujourd'hui, il est à quelques encablures, à quelques journées maintenant de l'accession en JPR Pro League avec son club de Dender. C'est incroyable son aventure cette saison du côté de Dender. Vous n'y croyez pas et finalement vous y arrivez.
Ouais, tu sais, tu établis toujours une liste d'objectifs en début de saison avec la possibilité de revoir tes objectifs parfois à la hausse, parfois à la baisse. On a la chance cette saison d'avoir pu les revoir à la hausse. On est aujourd'hui à deux matchs de la fin du championnat. On est dans une position où on a notre destin entre nos mains. Mais on n'y est pas encore, on a encore deux difficiles matchs à jouer. Il faut, c'est ce que je dis toujours aux joueurs et aux gens à l'intérieur du club, il faut rester humble, surtout pas se voir en haut déjà. On a encore beaucoup de choses à faire. Travailler bien toute la semaine pour pouvoir aborder le match de Zultoiregem du mieux possible. Et puis après, on verra. Mais c'est sûr que c'est positif de vivre des moments comme ça où tu as le sentiment que tout le monde adhère au projet que tu as lancé il y a quelques mois. Et ça, c'est gratifiant, je crois, pour tout le monde.
Alors, tu tombes vraiment au meilleur moment parce que forcément, tu es passé par le KRC Genk. Le KRC Genk est en train d'effectuer une véritable métamorphose du côté des Champions Playoffs. Mais avant ça, je voulais m'intéresser à toi et surtout parce qu'on en a déjà souvent parlé ensemble dans des échanges qui étaient des échanges qu'on avait nous deux informels. T'as une vision du football et surtout une vision de ton rôle de dirigeant tout à fait particulière. Et je pense que c'est important aussi que les gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui aiment le football belge puissent t'entendre sur c'est quoi aujourd'hui la patte Julien Gorius. Alors c'est quoi ta conception du métier de directeur sportif et du football de manière générale?
Ouais, déjà, t'as la conception, Sacha, d'un club. Je veux dire, dans un club, pour moi, c'est essentiel de travailler dans la stabilité. Parce que tu dois être capable de travailler sur plusieurs cycles avec les mêmes personnes. Mmh. Alors ça ne veut pas dire que tu dois tomber dans l'immobilisme. Il faut pouvoir changer les choses si c'est nécessaire de les changer. Mais trop souvent, on voit des clubs, des dirigeants qui, après quelques mois, changent leur vision. Et ça, je crois que c'est contre-productif. Ajouter à ça, c'est essentiel d'amener des gens à l'intérieur, des joueurs aussi, qui ont les mêmes valeurs que ton club. Mmh. Tu peux pas, à un moment donné, changer l'ADN de ton club pour l'un ou l'autre individu. Tu dois pouvoir avoir des gens qui fonctionnent dans la même ligne directrice que toi. Et ça, c'est essentiel. Après, la conception du football, d'un point de vue purement, je veux dire, technique, j'ai pas une vision ou une conception qui est figée aujourd'hui. Alors, comme tout le monde, je crois, j'aime le foot offensif. Mmh. Mais tu dois être capable de t'adapter au profil des joueurs que tu as mis à disposition de ton entraîneur. Tu dois être capable de t'adapter à l'adversité. C'est pour ça que dans le recrutement, par exemple, j'aime prendre des joueurs qui, sur l'aspect intellectuel, connaissance du foot, connaissances tactiques sont bons parce que les joueurs intelligents s'adaptent. Et avoir de l'adaptabilité dans le foot d'aujourd'hui, c'est essentiel. Tu dois être capable, mon sens.
Les fameux joueurs cerveau, je t'interromps.
Oui, mais les joueurs cerveau te donnent la possibilité de switcher de tactique, par exemple, dans un même match ou d'un week-end à l'autre, parce que tu peux pas aborder les matchs de la même manière à chaque fois. L'adversaire change chaque semaine, donc tu dois pouvoir faire un reset par moment et t'adapter à ce que tu vas avoir en face de toi, t'adapter aussi aux exigences de ton coach. Donc l'intelligence de jeu, la perception du jeu et l'intelligence tactique est à mon sens un atout considérable aujourd'hui.
Est-ce que tu as une différence, ou en tout cas tu as ressenti une différence de ta perception de ce monde du football quand tu es passé de joueur à dirigeant? Est-ce qu'il s'est passé un truc où tu t'es dit « Ah tiens, je pensais que c'était comme ça, j'étais joueur, je le vivais comme ça, mais maintenant que je suis dirigeant, j'ai renversé le prisme et je le conçois différemment ».
Ouais, tu sais, quand tu es joueur, il y a parfois des choix d'un staff que tu ne comprends pas. Quand tu es joueur, tu fais une analyse très logique des choses. Les meilleurs à l'entraînement doivent jouer et les moins bons ne doivent pas jouer ou doivent être sur le banc. Mais les meilleurs à l'entraînement, c'est quoi? C'est pendant l'opposition que tu fais à la fin de l'entraînement, celui qui se démarque le plus de l'autre. Quand tu passes de l'autre côté, tu t'aperçois que le staff technique est dans le souci du détail. Pourquoi pendant l'échauffement, le joueur, c'est un exemple, hein, court devant le plot, pas derrière, pourquoi là il s'arrête, pourquoi il fait pas le contre-effort. Tout est analysé pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. Et quand tu passes de l'autre côté, tu t'aperçois en fait que ça va bien plus que il est bon à l'entraînement, il joue. C'est l'investissement que tu mets au quotidien, c'est le mec qui arrive en retard, pas en retard, c'est le mec qui va le mieux contrecarrer les plans de l'adversaire. Le métier d'entraîneur est un métier tellement difficile où tu peux pas fonctionner uniquement sur un seul et même critère. Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Et c'est pour ça que ça a été au début pas dire un choc, mais j'ai compris beaucoup de choses en passant de l'autre côté. Beaucoup, beaucoup de choses.
Mmh. Je vais te poser la question sur le niveau intrinsèque de notre championnat, parce que tu es français. Bon, tu as vécu évidemment la plupart de ta carrière ici en Belgique, donc on peut considérer que tu es belge. Mais beaucoup, et c'est un reproche qu'on peut faire notamment aux supporters, on les voit, nous, dans les communautés, nos différentes communautés, on a tendance parfois à vouloir mettre certains joueurs du championnat de Belgique parfois plus haut qu'ils ne sont réellement au regard de l'avis international. Toi, quand tu dois positionner par exemple un joueur du championnat de Belgique par rapport à son niveau réel au regard du monde, comment est-ce que quelle est ta perception réelle d'un super joueur dans le championnat de Belgique? Qu'est-ce que ça vaut réellement un bon joueur, un top joueur de notre championnat pour toi?
Bon, déjà, tu as les cinq grands championnats, donc la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et l'Angleterre. Où on situe la Belgique par rapport à ça? Ça, c'est la première des questions qu'on doit se poser. Pour moi, si on part du principe que tu as le top 5 qui est en catégorie 1, on va dire, la Belgique arrive juste après aujourd'hui. C'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Je crois qu'on était à ce moment-là plus dans une catégorie 3 que dans une catégorie 2. Aujourd'hui, l'évolution du championnat fait qu'on est, à mon avis, au même niveau que, par exemple, la D1 portugaise, que la D1 hollandaise, que la Championship, par exemple. On est dans cette catégorie-là de championnat. Donc, un joueur qui est aujourd'hui au-dessus de la mêlée dans notre championnat doit être capable d'intégrer un championnat du top 5. Mais est-ce qu'il est capable déjà d'intégrer Liverpool, façon de parler? Peut-être pas. Par contre, une étape intermédiaire dans un de ces grands championnats, oui. Aujourd'hui, est-ce qu'un Bilal Elkanous est capable d'évoluer à Barcelone? Peut-être pas encore. Est-ce qu'il est capable d'évoluer dans un club du subtop en Espagne? Je pense que oui. Donc, il faut faire attention entre le step que tu vas faire. Et c'est pour ça qu'un joueur doit être bien entouré. Parce que parfois, il n'a pas forcément tous les codes pour pouvoir avoir une bonne introspection de lui. Mais aujourd'hui, on a tellement amélioré le niveau de notre compétition, notamment par l'arrivée des playoffs. L'arrivée des playoffs, alors je sais que c'est toujours un débat pour, contre, mais l'arrivée des playoffs a amené, je vais dire, une augmentation du niveau général belge.
Et on le sent dans les rencontres, notamment Champions Playoff.
Hein, on le sent, et on le sent aussi à travers les parcours de nos clubs en Europe, tout simplement. Donc oui, je crois que les bons joueurs aujourd'hui sont capables d'intégrer le top 5 championnat européen.
Thomas, tu écoutes un petit peu Julien discuter, enfin parler avec nous depuis le début. Est-ce qu'il y a une réflexion qui te vient à l'esprit? Peut-être une question que tu voudrais poser à Julien. Je sais que tu as fait des études de management, notamment pour être manager de club. Donc, il y a peut-être aussi des choses qui t'inspirent dans son discours.
Non, pas forcément dans ce domaine-là, mais plutôt, enfin, dès le départ de votre conversation, je me suis posé la question parce que tu parlais des objectifs de Dender. Est-ce que l'objectif principal en début de saison était celui que vous avez aujourd'hui? Parce que après, t'as parlé que tu pouvais rehausser les ambitions aussi bien vers le haut que vers le bas. Donc ça, c'était vraiment ma question. Je me posais la question.
Écoute, non, au départ, tu sais, Dender est un club qui, l'année dernière, faisait sa première saison dans l'antichambre, c'est-à-dire en D1B. Ils se sont sauvés à 2-3 journées avant la fin. Donc c'était une saison très difficile où la priorité de cette première saison en 1B, c'est de survivre. On le voit avec Framborin cette année-ci. Tu dois rester. Ça, c'est l'objectif principal. Le deuxième objectif qu'on avait, c'était de stabiliser le club, c'était de vivre une saison tranquille, de ne pas avoir à attendre jusqu'aux dernières journées pour se sauver. Et puis, plus vite on se sauvait, en fonction de là, redémarrer peut-être un nouveau cycle d'objectifs. On s'est très très vite aperçu, à travers l'évolution de certains garçons qui étaient déjà là l'année dernière et à travers le recrutement qui a été fait, qu'on avait une équipe qui était capable peut-être d'intégrer le top 6. Top 6 qui cette année peut ouvrir éventuellement un ticket supplémentaire pour la D1A.
Ouais.
Cet hiver, on était conscient qu'on avait une équipe capable de jouer le top 6, mais évidemment, de là à dire qu'on joue le top 2, non. C'est après semaine et semaine qu'on a vu que bon, aussi les autres clubs concurrents ne prenaient pas forcément l'écart avec nous. On a créé une équipe qui était très très stable et certains joueurs se sont magnifiquement développés. On arrive aujourd'hui à 2 journées de la fin avec, pour la première fois cette saison, le sort entre nos mains. Donc aujourd'hui, oui, on va essayer d'être dans le top 2, mais quoi qu'il arrive, ça reste une saison réussie parce que quand tu vois de là où tu viens, bon, c'est déjà une saison aujourd'hui réussie. Il faut en faire une saison inoubliable maintenant.
Et niveau licence, est-ce que vous avez, est-ce que vous pouvez facilement l'avoir ou c'est encore
aujourd'hui, je crois que c'est une bonne chose. La commission des licences est devenue de plus en plus rigoureuse, de plus en plus stricte. Je crois que c'est bien. On a fait les choses comme on le devait. On n'a pas encore eu évidemment les feux verts comme aucun autre club de la série ni même en D1A.
J'avais vu le mail.
Mais on a déjà eu un apport, enfin un retour positif par rapport à ce que l'on avait fait. Aujourd'hui, je suis optimiste avec ça.
Ok, tant mieux. Ça, c'est important aussi parce que c'est bien beau de finir top 2, mais si t'as pas les licences, c'est vrai que ça peut être potentiellement problématique.
Effectivement, on va se poser aussi la question de savoir si Charleroi aura la licence. Non, forcément, trêve de plaisanterie, place évidemment à Parole de supporters. On va plonger dans l'actualité liée à la Jupiler Pro League et évidemment, on va se poser la question, Rick 2000, messieurs, on vous a posé la question sur X, anciennement appelé Twitter. Après ce match contre le RWDM, avez-vous été convaincu par le coaching de Rick 2000? Et tout de suite, les réactions, elles pleuvent forcément de la part de Sébastien Dupont-Loup qui nous dit « Tu dois gagner chez toi et tu fais rentrer tes attaquants dans le temps additionnel. » Fin de la blague. Il y a également Manu Hendrix qui nous dit « Pour moi, c'est assez simple à résumer. Quand le changement de coach apporte quelque chose immédiatement, on peut remettre en question le boulot de l'ancien entraîneur. Ici, on voit bien que Matsu n'était pas le seul responsable. » Quentin.
Non, c'est vrai. C'est vraiment un peu le bateau qui coule, je trouve. Et même au niveau de l'effectif, on sent, mais offensivement, c'est tellement pauvre. La création d'occasion, c'est tellement pauvre. Et là, ils étaient à domicile contre le RWDM. mais ils ont, pour moi, ils méritaient même pas ce point. Le RWDM méritait clairement de gagner. Ils ont la chance d'avoir eu un grand Kofi qui fait que la tête reste encore un peu au-dessus de l'eau et qu'ils ont cet avantage de la phase classique qui maintiennent parce qu'il y a aussi eu match nul dans, dans l'autre rencontre. Donc ça, c'est un peu la chance pour Charleroi. Mais clairement, pour le niveau du jeu, le niveau du la qualité, les attaquants, la création d'occasion, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc le problème du coach, je pense pas qu'il soit là, c'est le problème de l'effectif pour moi.
Et c'est vraiment une question d'effectif, il peut pas faire de miracle en fait Rick 2000, Thomas.
Bah Rick 2000, c'est l'entraîneur je pense que je connais le mieux dans ce championnat, parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec lui quand j'étais à Bruges, il était entraîneur de Club Next à l'époque en D2, donc j'ai beaucoup conversé avec lui, c'est quelqu'un de très professionnel, de très gentil, de très généreux, et je pense qu'il peut vraiment réussir dans ce championnat.
Il m'a l'air très sain aussi.
Ouais, très simple, très sain, et franchement c'est une crème cet homme. Et il a vraiment toutes les qualités pour réussir. Et là, il l'a déjà fait avec Westerlo, il les a maintenus. Mais c'est vrai que je pense que la qualité du noyau est un problème assez profond du côté de Charleroi. Et je pense qu'on ne peut pas juger après un seul match. On n'a vu qu'un, donc pour moi, c'est trop tôt de poser cette question.
Julien, tu t'es déjà retrouvé dans des situations similaires quand tu étais joueur, quasiment dans une lutte, dans une équipe qui ne tourne pas. Et on a un nouvel entraîneur qui arrive, qui doit apporter un nouveau flux, une nouvelle énergie, un dynamisme supplémentaire. Et on se retrouve dans une situation où on sent que, bah, quelque part, le problème nous dépasse, quoi.
Bon, déjà, l'entraîneur ne vient pas avec une baguette magique. Je veux dire, tu changes pas une équipe qui est dans la difficulté en un claquement de doigts. Ça prend du temps à installer une certaine méthodologie dans le travail. On peut critiquer, vous savez, les remplacements d'un coach, mais parfois, quand tu sais pas gagner un match, il faut savoir ne pas le perdre. Et ce week-end, je crois que le coach, il a surtout vite compris que le grand gagnant des play-downs sur ce week-end-là, c'est eux, parce qu'ils étaient pas forcément bien occupés sur ce match. Et au final, ils gardent l'avance avant le match. Il y a une journée en moins à jouer. Et c'est aussi ça, parfois. Alors oui, évidemment, ils ont commencé le match pour le gagner, mais Molenbeek était supérieur sur ce match-là. Molenbeek aurait dû gagner, mais Molenbeek n'a pas gagné et Charleroi n'a pas perdu.
Merci Biron.
Et forcément, c'est aussi ça, je veux dire, un bon entraîneur. C'est parfois comprendre que tes joueurs sont peut-être pas dans un bon jour pour se dire, écoute, aujourd'hui, on va peut-être pas forcer les choses pour se prendre peut-être un contre et le perdre. Et c'est pouvoir peut-être maintenir le résultat. Donc, oui, ça m'est arrivé aussi dans ma carrière d'avoir des moments difficiles, mais tu sais, parfois, c'est simplement un déclic mental à trouver avec les mecs, parce que dire que Charleroi n'a pas la qualité, je suis pas forcément d'accord. Ilyam Aritra, est-ce que c'est un bon joueur? C'est un très bon joueur. Zorgan, est-ce que c'est un bon joueur? C'est un très bon joueur. Les deux nouveaux qui ont rejoint le club en janvier, ce sont des très très bons joueurs aussi.
Mais sont-ils configurés pour vivre ce type d'événement-là, pour aller jouer la bataille?
Mais
tu vois ce que je veux dire dans le fond de tableau.
Tu sais, un joueur doit être configuré à tout. Pour moi, la grande qualité d'un joueur, et c'est propre au foot, c'est que chaque week-end tu dois faire le reset, parce que t'as chaque week-end la possibilité de corriger ce qui n'a pas bien été ou de maintenir ce qui a bien été. Et ça, c'est propre de tous les sportifs de haut niveau, c'est qu'on a la chance. Bah que chaque week-end, on est évalué une nouvelle fois. Donc aussi, dans le recrutement, ça doit être aussi un facteur à prendre en considération. Est-ce que les joueurs sont prêts à, comme ça, tourner le bouton d'un week-end à l'autre? Moi, j'ai pas l'impression, quand je vois Pétris jouer ou le milieu de terrain jouer, que ces joueurs-là ne sont pas prêts à vivre ce genre de situation. J'ai même l'impression que ces mecs se sont adaptés à la vitesse grand V. Donc...
Mais il y a un manque de créativité qui est quand même assez criant. On est d'accord là-dessus.
Mais parce que parfois, c'est encore une fois psychologique, c'est la confiance. Ils ont des joueurs créatifs dans cette équipe. Dabag est un joueur créatif. Alors, est-ce que c'est un grand buteur? Parce qu'on parle toujours de... il manque un attaquant. Peut-être que c'est un joueur qui pourrait être... Peut-être, encore une fois, moi, je suis pas l'interlocuteur.
Le fantasme aussi même.
Mais peut-être, voilà, meilleur encore à côté d'un vrai neuf. Ouais. J'en ai aucune idée. Mais avoir un Osimhen chaque année, les gars, ça n'arrivera plus. Je veux dire, c'est extraordinaire ce qu'ils ont réussi à faire, les dirigeants de Charleroi. Chaque été, ils ont réussi parfois à attirer des joueurs qu'on ne reverra peut-être plus dans notre compétition. Donc, chapeau, mais... ça va peut-être plus se passer, hein. Donc il faut être conscient de ça aussi. Hein.
Thomas ?
Non, en fait, je reviens sur ce que j'ai dit là. Enfin, j'ai terminé ma phrase avec le noyau pose problème. En fait, j'ai bégayé, je pense, parce que depuis le début de saison, je dis justement que le noyau de Charleroi, il est qualitatif.
Évidemment.
Je suis complètement d'accord avec ce que Julien dit. Ils ont des joueurs créatifs, Guiagon, Zorgan, c'est des vrais bons milieux de terrain. Ils peuvent apporter quelque chose.
Je trouve qu'il y a un homme qui s'appelle Parfait Guiagon qui exprime créatif, tout à fait ça.
Oui, voilà.
Pour moi, c'est un joueur qui est vraiment un faiseur de différence, qui à chaque fois que Charleroi est en difficulté, prend ce ballon et va débloquer des situations. C'est certainement un joueur qui aurait peut-être dû mériter un peu plus de temps de jeu au regard de ses performances. C'est des joueurs aussi qui peuvent apporter sur le long terme du bien au Sporting Charleroi. Mais quelque part, j'ai un peu l'impression parfois que quand Parfait Guiagon veut combiner, ben il y a pas de solution jeu court. Tu vois, je ne sais pas si tu as pu regarder le match entre Charleroi et le RWDM. Il est parfois seul sur son île. Il fait son premier crochet court. Derrière, il cherche la solution. Il la trouve pas. Il doit revenir derrière. Ou alors, il joue côté droit ou côté gauche. Il joue tout le temps sur le retrait. Parce que t'as pas, à un moment donné, là, dans l'animation offensive, tu n'as pas le mouvement autour de lui qui lui permet d'être encore meilleur et de rayonner.
T'as pas d'ailier, en fait, dans ce noyau. C'est un peu ça le problème, je pense. T'as Mbenza, mais il était blessé. C'est le seul vrai ailier, je pense, dans ce noyau. Donc, je pense
avec Bernier, Antoine Bernier.
Pour moi, c'est pas un vrai ailier. C'est pas un vrai ailier pour moi. C'est plus un il peut être son soutien d'attaquant.
C'est un
MOC,
comme on dirait sur FIFA.
Ouais, voilà.
Après, tu peux gagner les matchs sans avoir d'ailier de formation. Hein. Je veux dire, tu dois pouvoir t'adapter, comme par exemple Genk s'est adapté. Mm-hmm. Genk a perdu les dernières années. Des joueurs
Pencil par exemple.
Ouais, Pencil qu'est-ce qu'ils ont perdu
encore?
Trésor, Mike Trésor, qui étaient eux pour le coup des vrais joueurs de percussion, de débordement. Tu perds ces joueurs-là, tu regardes dans ton noyau, est-ce que tu as la possibilité de les remplacer? Oui, non, sinon tu adaptes ton système. Mm-hmm. Et c'est ce qu'a fait Vranken par exemple. Donc pour moi, le fait d'avoir ou ne pas avoir d'ailier n'est pas forcément une excuse ou...
Je parle par rapport au système de jeu que 2000 instaure là pour l'instant. Ouais. Il en faut, sinon c'est pas possible. À Westerlo, il joue avec des ailiers aussi, là, c'est pas...
Ouais, c'est un peu compliqué, effectivement. Justement, on va prendre l'autre partie, on va parler du RWDM assez rapidement aussi. Est-ce que vous croyez en l'effet Yannick Ferreira dans cette équipe? Parce que là, par contre, dans le jeu, dans l'animation, dans l'énergie, franchement, on a vu du mieux.
C'était pas mal.
C'était vraiment pas mal, Thomas.
Ouais, non, vraiment, c'était pas mal. Ils ont bien joué. Et comme le disait Quentin il y a quelques minutes, pour moi, ils devaient gagner ce match. Ils devaient le remplacer, comme toi, tu disais. Merci, Biron par rapport à Charleroi. Parce que franchement, ce qu'il rate, là, le penalty limite, ok, ça peut arriver. Mais l'occasion, il est devant le but. Il est pas signalé hors jeu. Je sais pas ce qu'il fait avec son pied. Enfin, il tourne son pied, il le met pas. Enfin, c'est quand même catastrophique. Et c'est très dommage pour Ferreira parce que les trois points auraient été amplement mérités.
Encore le penalty dans la tête. Et par contre, faut le souligner, hein, le retour de Xavier Mercier.
Oui, exact.
Incroyable match. Hein. C'est lui qui crée, qui coupe les lignes. Et on le voyait plus. Avec les anciens coachs, on le voyait plus. Ici, Ferreira, il remet directement titulaire.
Et le match... Il lui a dit, c'est toi le premier sur la liste. Hein. Mais ça, c'est le football de Yannick Ferreira. Hein, tout
mais
de suite,
le match
il
qu'il fait,
dedans.
C'est lui qui crée les occasions. C'est lui qui amène l'occasion. C'est lui qui amène l'occasion du penalty. C'est lui qui coupe les lignes et tout. Donc, ça fait plaisir de voir de tels joueurs chez nous.
Ouais, c'est des joueurs très intéressants. Julien, c'est intéressant d'avoir ton point de vue sur ce RWDM-là, parce que toi, tu y étais sous une autre époque, avec une autre bannière. Et donc, forcément, tu as un regard qui est totalement différent d'une autre, qui sommes de simples observateurs. Quand tu vois l'évolution de cette équipe, qu'est-ce qui te vient à l'esprit en premier?
Bon, tu sais, tu parles d'une autre époque. Bon, je suis parti il y a à peine plus d'un an. Aujourd'hui, des joueurs que j'ai fait venir il y a un peu plus d'un an, il en reste que trois dans tout le noyau, donc on parle de Mika Biron, Théo Defourny, Alex Dessart, qui est blessé. Donc ce que je viens de dire veut déjà tout dire, ça veut dire qu'en l'espace d'un an, un an et demi, on a modifié 90% de l'effectif. Mm-hmm. Donc parfois quand tu as peu ou pas de stabilité, eh ben, tu t'exposes à ce que la mayonnaise ne prenne peut-être pas directement. C'est ce qui s'est peut-être passé. Après, j'aime pas parler de mes anciens clubs parce que je peux parler de l'époque quand moi j'y étais, mais depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Tu sais, l'eau coule sous les ponts.
Bien sûr.
La seule chose que je peux dire, c'est que depuis l'arrivée du coach Ferreira, bon, d'un point de vue extérieur, j'ai le sentiment qu'il y a une idée très très claire. que les principes de jeu sont respectés, que les joueurs jouent aux bonnes positions. Ça, je crois qu'on est tous capables de le dire, et c'était très facilement identifiable. Maintenant, c'est une équipe qui, sur l'aspect individuel, a largement les qualités pour finir, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes-là, mais pour finir devant Eupen et Courtrai, oui. Vraiment sur l'aspect individuel, mais le foot, c'est collectif.
Mais c'est important d'avoir quand même ton regard, je te relance là-dessus, par rapport à ce que toi t'as vécu, parce que c'est une équipe qui a changé du tout au tout. C'est ça que je veux dire. C'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que ce que vous avez construit, ce que vous aviez construit avec Thierry Dailly, est totalement différent dans la mentalité, dans l'approche, dans la façon de faire aussi le mercato. Alors que toi, en tant que directeur sportif, t'avais une autre approche que tu mets aujourd'hui en œuvre, et d'ailleurs très bien, avec succès du côté de Dender. Forcément, ça doit aussi te non pas t'interpeller, mais te dire waouh, en fait, c'est comme si on avait pris tout ce que j'avais fait, qu'on avait décidé de le mettre de côté pour ensuite mettre en place, je dirais, totalement une autre philosophie.
Oui, mais on a tous nos visions. Je veux dire, à un moment donné, si l'actionnaire du club a une vision qui passe par l'intégration, je veux dire, des clubs du groupe, c'est sa vision à lui, il faut la respecter. Je crois que c'est lui aujourd'hui. La personne qui investit de l'argent dans ce club, donc c'est à lui d'installer sa propre philosophie, pardon, et sa propre vision. La mienne est différente. Est-ce qu'elle est meilleure que la sienne? J'en sais rien. Mm-hmm. Aujourd'hui, qui suis-je pour dire que ma vision est la bonne, la sienne la mauvaise? Je suis personne. Simplement, et tant que j'ai été dirigeant de ce club-là, je m'y tenais à ma vision parce que j'étais convaincu qu'à l'instant T, c'était cette vision-là qui allait nous amener en D1A. Mmh. À partir du moment où je ne suis plus dirigeant de ce club-là, il faut respecter ce que les gens font. Je veux dire, à un moment donné, c'est eux les décisionnaires, quoi. Et si à la fin, ils se maintiennent, ils l'auront réussi.
Tu n'as aucun regret par rapport à ton passage au RWDM?
Non, parce que j'ai ma conscience tranquille dans tout ça. J'ai toujours tenu ma ligne de conduite, du début jusqu'à la fin. Le seul regret que j'ai, mais ça, c'est vraiment à l'intérieur de moi-même, c'est que j'ai pas su terminer la saison qui a amené le club en première division, parce que on avait tout fait pour mettre l'équipe sur les bons rails. Et quand on t'enlève, tu sais, dans la dernière ligne droite, au final, la médaille, c'est un peu dur à encaisser, mais encore une fois, les décideurs décident.
Et la vie a été juste avec toi, parce qu'aujourd'hui, tu es du côté de Dender et ça te sourit.
Oui, mais tu sais, aujourd'hui, l'expérience Molenbeek m'a fait énormément grandir. Je suis très méticuleux dans tous les choix que je fais aujourd'hui. Le milieu du foot est un milieu un milieu que je partage depuis maintenant tant d'années. Mais aussi un milieu qui a beaucoup, beaucoup évolué, tu le sais, avec l'arrivée notamment de beaucoup d'investisseurs étrangers. Si demain, je ne me sens plus en accord avec les valeurs de ce nouveau foot, je suis capable de sortir de ce milieu-là sans aucun problème. Et je continuerai à être dans ce milieu-là uniquement si les valeurs que partage le club sont en adéquation avec les miennes. Sinon, je sortirai.
Ah ben, au moins, c'est le mérite d'être clair. On dit les choses de façon très bien. Effectivement, ta manière saine, pour le moment, est en train de porter Dender au nu, en tout cas, à ce qu'on appelle un sur-régime, hein, parce que vous ne vous attendiez pas à être à cette position. Et aujourd'hui, vous performez. Donc, félicitations pour ça. C'est en train de payer. Et quelque part aussi, c'est la vie. C'est la justesse. C'est le karma. Et les choses, elles arrivent aussi pour certaines raisons. Ça sert aussi à ça, à un moment donné, d'être sain d'esprit et d'avancer de la bonne manière, de manière structurée. On va passer évidemment au KRC Genk, parce que tu es un joueur éminent, tu es passé par le KRC Genk. C'est le moment parfait de pouvoir parler des Genkies, parce que là, ils étaient fades et sans surprise durant la phase classique. On les a critiqués, et ô combien critiqués, et justement d'ailleurs dans cette émission, mais on assiste véritablement à une métamorphose durant les Champions Playoffs. On en a parlé en préambule, alors la question elle est simple. Est-ce que les hommes de Wouter Vranken sont de retour dans la lutte pour le titre, Quentin?
Franchement, clairement. Parce que je trouve que ce nouveau dispositif à 3 derrière, il est incroyable. Surtout avec l'apport des pistons. On a enfin un El Ouadi, on a enfin un Kayembe qui joue dans leur vraie position. Et même contre l'Antwerp, dès que l'Antwerp avait la balle en défense, il y avait un pressing et un contre-pressing. Mais c'était incroyable, je trouve. Et l'apport qu'ils avaient, mais on en retrouvait à chaque fois Kayembe proche du rang rectangle adverse. El Ouadi proche du rang rectangle adverse. Parce que c'est des latéraux, pour moi, qui ont plus un apport offensif que défensif. Et avant, dans le problème de cette défense à 4, c'est qu'ils étaient pas assez offensifs parce qu'il y avait quelqu'un devant eux, qui a plus la personne devant eux, et défensivement, ben, ils avaient pas trop le droit à l'échec, tandis qu'ici, ben, il y a encore le défenseur central droit ou le défenseur central gauche qui peut venir couper, et notamment Mackenzie qui a bien fait le travail derrière Kayembe, je trouve. Et donc, cet apport-là, et puis on retrouve un Noir Aitelash qui profite malheureusement de la blessure d'un Oyen, d'un Fadera qui est toujours un peu fébrile aussi au niveau des blessures, mais on a, je pense que Vranken a enfin trouvé le dispositif et l'ossature avec un effectif, mais un noyau qu'il a, mais qui est incroyable. Je trouve même la qualité sur le banc. Il y a vraiment des bons joueurs. Hein.
Grosse générosité, notamment d'un certain joueur, Galarza, que je trouvais très très bon, et toujours, qui est un joueur qui est vraiment un complément très intéressant.
Et à voir, parce qu'il faut aussi pas l'oublier, le capitaine est absent. Einon est absent. Donc il a aussi changé ce dispositif avec l'absence d'Einon. Donc avec le retour d'Einon, je pense que à sa place, qu'est-ce que je ferais? Ben, je laisserais quand même cette défense à 3 qui a vraiment bien marché.
Einon qui est, je t'interromps, la version évoluée de Julien Gorius, évidemment. Hein. Voilà. Ça, quand on voit Einon, on a un peu l'impression de voir le nouveau Julien Gorius, quoi. C'est un peu comme le Pikachu qui devient Pichu, quoi. C'est un peu ça. Non, mais c'est vrai. Non,
ouais,
je te laisse continuer.
Non, mais c'est vrai. Donc, avoir Einon, ben, c'est Rozoski ou Galarza, un des deux qui devra sauter pour le retour de Einon dans cette défense à 3, je trouve.
Thomas.
Ouais, quand on analyse ce noyau, c'est tellement une évidence qu'il joue dans ce dispositif-là. Je trouve, parce qu'en fait ils ont les joueurs pour ils ont été chercher El Ouadi pour remplacer Munoz, et de base El Ouadi c'est un piston. Kayembe, ils ont été le chercher pour remplacer
Arteaga,
pardon, merci. Alors que à Charleroi ils jouent aussi à cette position là, donc en fait c'est une évidence et ça va les amener vers ce top 3, je pense.
Tu connais un peu Wouter Vranken, Julien?
Ouais, j'ai joué avec lui. Ouais. On a joué ensemble à Malines, je pense, saison 2008-2009.
Ouais. Il a une patte particulière, il a un état d'esprit particulier. Qu'est-ce que tu retrouves de lui dans cette équipe du KRC Genk?
Ouais, sa patte en tant qu'entraîneur, je ne la connais pas. Je connais le Wouter Vranken joueur, un joueur qui était stable. C'était un joueur d'équipe, Wouter. Mmh. C'était pas un joueur, je veux dire, capable de créer des différences et de gagner les matchs tout seul. Mmh. C'était quelqu'un qui pensait collectif avant de penser à lui-même. Quelqu'un avec une grande humilité aussi. Je crois qu'il sait transmettre ça. Il donne l'impression aussi d'être un entraîneur qui ne subit pas, très actif. On le voit parfois dans ses changements. On le voit là par le changement aussi de système. D'un week-end à l'autre, ça fait maintenant 2 semaines qu'il a su modifier et adapter son système. Et comme on le disait juste avant, ça paraît aujourd'hui être une évidence que cette équipe joue en 3-4-3. Parce que tout le monde est à sa bonne position, parce qu'il y a une clarté dans tout. Et ça aussi, c'est digne d'un bon entraîneur. Quand on voit son évolution entre Malines et maintenant Genk, c'est quelqu'un qui a énormément de réussite. J'étais surpris au début parce que Wouter, quand je jouais avec lui, il avait peut-être une trentaine d'années à ce moment-là. J'étais encore un jeune joueur à l'époque. C'était quelqu'un de très positif dans un vestiaire, mais pas forcément un grand leader. Tu vois, malgré son âge et malgré son vécu, il avait déjà à ce moment-là été, je crois, champion ou vice-champion avec Genk, il avait gagné des trophées. Mais il était très calme, jamais à vouloir trop parler, parler peu mais parler bien. Et l'entraîneur que je vois aujourd'hui est un entraîneur très actif, qui se met en avant. Donc c'est un poil différent du Wouter joueur, mais il a su bien évoluer. Et quand je vois sa progression, c'est très très bien.
C'est intéressant parce que dans ce que tu dis, il y a beaucoup de ce que on peut analyser, notamment dans le jeu. On a vraiment l'impression que pour bien se porter, cette équipe du KRC Genk a besoin collectivement d'être forte et qu'il n'y a pas une individualité qui va porter pour faire des résultats, comme ça peut par exemple être le cas dernièrement du côté du club de Bruges, par exemple avec un Skovelsen, à Anderlecht avec un Thorgan Hazard, avec Mohamed Amoura à l'Union Saint-Gilloise. Là, avec le KRC Genk, on a évidemment la suprématie d'un Bilal El Khanous qui commence à prendre véritablement son envol, Mais quelque part, c'est vraiment, encore une fois, on parle de système. Donc, quelque part, c'est assez lié à l'état d'esprit, à l'être humain. Le football mis en place par l'entraîneur est assez, je dirais, similaire, ou en tout cas à l'image de sa personnalité, quoi.
Oui, et puis, quand tu regardes la conception de cette équipe, tu as trois défenseurs centraux qui sont sur l'aspect athlétique impressionnant. Mm-hmm. Tu as des joueurs de couloir, des wingbacks, qui ont énormément de courses, donc capables d'apporter un apport offensif, capables de défendre. Tu as des milieux de terrain qui sont dans l'harcèlement, mais qui savent aussi jouer. Tu as deux joueurs sous l'attaquant, que j'appelle des pockets,
ouais,
qui savent se déplacer merveilleusement bien entre les lignes, peuvent aller sur le côté, on leur donne un rôle libre. C'est totalement adapté aux qualités de ces deux garçons-là. Mm-hmm. Et tu as devant un point d'appui. Donc cette équipe, elle est ultra bien équilibrée. Si tu me dis, écoute, si tu pouvais changer quelque chose, j'ai presque envie de te dire, je change rien.
Ouais.
Tu vois. Et ça, c'est quand même des signaux importants, je trouve, pour les 8 derniers matchs.
Ouais, clairement. Surtout, pas oublier, c'est 2 clean sheets. Hein. C'est quand même important. À l'Antwerp et contre l'Union, Van de Voort qui tient un clean sheet avec cette défense à 3. Donc,
ce système à 3 change tout pour toi.
Ouais, clairement.
On est d'accord, clairement. C'est véritablement la clé.
100%, parce que comme on en a dit aussi bien tous les trois, c'est qu'ils ont vraiment le dispositif avec les joueurs appropriés à chaque place. Et donc, c'est ce qui peut faire la différence, notamment dans les gros matchs et contre les grosses équipes.
J'allais vous poser la question de qu'est-ce qui explique la métamorphose, mais vous êtes en train de tout synthétiser. Moi, ce que je comprends, c'est qu'à l'arrivée des playoffs aujourd'hui, on a un nouveau système qui déséquilibre les adversaires et qui, quelque part, est rondement mené, est équilibré, mais amène ce que, par exemple, les autres équipes n'ont pas pour le moment, c'est le fameux effet de surprise. On a aujourd'hui une équipe qui n'était pas du tout la même, qui jouait, qui s'appuyait à l'époque, notamment avec Pencil, sur le système de profondeur de ses ailiers. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. On a complètement une autre façon d'appréhender le football avec, tu le disais, des pockets comme Anouar et Telhadj, Bilal Khanous, qui sont les premières rampes de lancement pour aller chercher et faire des différences offensivement. Donc ça aussi, ça joue dans la tête des adversaires, Quentin.
C'est ça, cette différence, notamment avec l'équipe de l'Union, qu'on a parlé la semaine dernière. Ben, l'Union qui a dominé ce championnat, mais qui arrive à ses playoffs dans la même philosophie, le même dynamisme, la même façon de jouer. On connaît les joueurs, on sait comment est Puertas, on sait comment est Lapoussin, on sait comment est Amoura. Alors que là, à Genk, il y a tout qu'à changer. Le dispositif, les joueurs, les placements, les courses, des joueurs, notamment Aytelaj et El-Khanous qui n'étaient pas dans cette position-là, les latéraux qu'il n'y a pas. Et donc, c'est vraiment cette différence. C'est que du coup, les adversaires, ben, ils n'ont pas vraiment eu le temps de s'adapter, d'étudier et tout, comment vont jouer Genk. Et sur les 10 matchs, c'est clairement ce qui peut faire la différence. Alors qu'on le voit quand l'Union a joué contre Genk, quand l'Union a joué contre le Cercle, ben le Cercle, on a vu clairement dès le début du match, il savait comment jouer l'Union, il savait comment prendre l'Union, et c'est ce qui a fonctionné.
Et surtout, tu parlais d'équilibre tout à l'heure, les pistons jouent véritablement aujourd'hui comme pistons. On avait des joueurs qui étaient très performants dans un système à 3 défenseurs qui ne l'étaient plus lorsqu'ils étaient devenus joueurs du KRC Genk. Zakaria Louadi était très bien placé pour en parler du côté du RWDM, était très bon sur ce côté droit où il a été très très performant. C'était un véritable piston pour aller faire tout le côté. Il n'avait pas l'occasion, quand il est arrivé en début de l'été, de le faire au KRC Genk. Aujourd'hui, on lui donne cette possibilité-là. Pareil pour Joris Kayembe. Qu'est-ce qui lui a donné sa sélection, j'ai dit la semaine dernière, mais je vais le redire aujourd'hui, du côté des Diables Rouges sous Roberto Martinez, c'est ce fameux côté et sa capacité d'aller arpenter tout le côté.
Très
quand
bon
il
match.
Faut jouer à 4, il n'est pas si à l'aise que ça. Donc aujourd'hui, les joueurs jouent en position naturelle et ça développe leur capacité quelque part, Julien.
Ouais, mais on a surtout maintenant une autre version du KRC Genk avec beaucoup, j'ai envie de dire, ils sont devenus imprévisibles. Ils sont devenus imprévisibles, donc comment contrecarrer une équipe qui est imprévisible, c'est très délicat, surtout dans une courte période de temps. Mais pour en revenir au piston et par exemple à l'apport d'un Zakaria Louadi maintenant, il y a deux choses. Il y a un, effectivement, le fait qu'il joue dans sa meilleure position, donc ça aide au niveau des repères. Mais surtout, deux, il fallait aussi digérer pour un jeune garçon un transfert d'un club après une année en Challenger Pro League vers un club du top en D1A, c'est pas simple, hein. Je veux dire, c'est tout un environnement qui change, c'est toute une pression qui s'installe sur toi. Donc, c'est lié aussi à cette chose-là, je crois, la raison pour laquelle on voit maintenant un autre Zakaria à Genk, mais c'est clair que le choix de l'entraîneur d'avoir pu changer ou bouleverser l'aspect tactique et la clé aujourd'hui. Après, n'oublions pas, 5 points, ça reste beaucoup. L'écart à combler. Il reste 8 matchs. C'est chaque semaine contre des concurrents directs. Tout peut aller très vite d'un côté, mais aussi comme de l'autre. Donc,
tu fais bien de le rappeler, Julien. 4 équipes se tiennent en 5 points dans cette Champions Playoff, plus que jamais palpitant, et c'est très serré. Et on ne sait pas ce qu'il adviendra, je dirais, du sort final. Les fameux unpredictable, c'était un slogan, je dirais, mis en place par le diffuseur officiel de la compétition, mais on est là-dedans.
Très important ce week-end, parce que Anderlecht joue l'Union et Bruges joue après un match d'Europe. Donc je pense que si Gagne arrive à prendre la victoire ce week-end...
C'est contre le cercle.
Ils vont faire vraiment une très très bonne affaire, je pense, ce week-end en cas de victoire. Et même mentalement, 9 sur 9, quand tu commences les playoffs avec un 9 sur 9, ça peut vraiment être pas mal.
Allez les amis, vous êtes prêts? Tu veux rajouter quelque chose,
Thomas? Ouais, juste un dernier truc. On parlait du fait que Gagne ait changé de dispositif, que ce soit potentiellement la raison pour laquelle il joue mieux. Mais dans ces playoffs, il faut aussi prendre en considération qu'il y a le statut de l'équipe. L'Union joue avec une pression énorme, comme Anderlecht. Gagne et Cercle, ils jouent comme des underdogs, donc ça les libère aussi. Ils ont moins de pression, donc ils jouent leur jeu. Donc il n'y a pas que le fait que le dispositif ait changé. Je pense aussi que le statut de l'équipe et du club fait qu'aujourd'hui, ils jouent beaucoup plus librement et ils n'ont pas cette pression.
Après sa défaite dans le topper, le Sporting d'Anderlecht est-il passé à côté de la montre en or dans son mano à mano face à l'Union Saint-Gilloise? La question, elle mérite d'être posée parce qu'on a un peu l'impression qu'on est complètement passé à côté de son sujet au Jan Breydel Stadion du côté du RSCA, Quentin.
Ouais, franchement, ils étaient méconnaissables. Enfin, ils étaient vraiment pas bons. On en parle plusieurs fois qu'ils gagnaient ici des matchs sans bien jouer. Ben là, ils l'ont perdu en ayant mal joué. Mais tous les joueurs, il n'y en a pas un vraiment à sortir du lot, je trouve. C'était vraiment pas bon du tout. Maintenant, il y a encore 8 matchs. Donc vraiment, ils ont loupé la montre en or.
Il est mignon quand il le fait. C'était vraiment pas bon du tout.
C'était pas bon, faut le dire, faut souligner. Mais ici, très important à domicile contre l'Union. Et comme Thomas disait, ils jouaient qu'une pression parce qu'on parle beaucoup de l'Union aussi qui a une pression. Mais je pense que Anderlecht, qui est quand même le club le plus titré du championnat, est dans une position qu'ils n'ont plus connue depuis des années. Ça fait 8 ans qu'ils n'ont pas eu aucun trophée, même Coupe de Belgique, championnat compris. 8 ans quand t'es le club le plus titré, c'est quand même pas normal. Donc je pense qu'ils ont vraiment une pression en interne et je pense que la pression en interne se met de plus en plus. Et donc ça va être très très important. Je serai au stade d'ailleurs dimanche prochain pour voir ce Anderlecht Union. Ça va être très chaud.
Voilà ce qui se passe quand on ne tient que sur les qualités individuelles de ces joueurs. On est parfois voué à avoir une erreur de système, un manquement, ce que les cyclistes appellent la fameuse défaillance sur le côté, la fringale, comme on dit. Voilà. Et du coup, ça relance absolument tout, alors qu'on pensait justement que c'était l'Union Saint-Gilloise en début d'après-midi le dimanche qui avait fait la mauvaise opération. Finalement, en fait, Anderlecht n'arrive pas à tenir cette fameuse pression des playoffs, Julien.
Bon, ils sont tombés sur un bon adversaire.
Ouais, c'est ça.
Un très, très bon adversaire. Mmh. Quand tu regardes la constitution de l'effectif de Bruges, intrinsèquement, c'est la meilleure équipe. C'est l'équipe qui a le plus de qualité individuelle. Pour moi, en tout cas.
Ouais, bien sûr.
Pour mon avis, c'est l'équipe qui a le plus de qualité individuelle. Quand tu as des joueurs comme Skovolson dans une équipe, quand tu as Nusa, quand tu as Yudla, quand tu as Thiago, c'est des joueurs. Bah, regarde les montants des transferts qu'on a mis pour certains joueurs.
C'est énorme.
Je veux dire, à un moment donné, cette équipe-là, aussi avec l'impulsion d'une nouvelle méthode avec Mickey Ryan, on parle beaucoup de Genk pour peut-être être, je veux dire, l'équipe qui va embêter les deux clubs bruxellois. Non. Moi, je mets Bruges avec.
Ouais. Ah,
clairement.
Je mets Bruges avec.
Ok,
100%.
Tu peux m'argumenter?
Parce que le nouvel entraîneur me donne le sentiment que ses joueurs adhèrent.
Ok, d'accord.
Et quand les joueurs avec cette qualité-là adhèrent, ça peut devenir une machine de guerre sur les derniers matchs.
J'ai vraiment l'impression d'une chose, Julien, alors... T'es technicien, justement, je vais dire technicien de surface, ça tu l'étais quand t'étais joueur, mais tu as cet aspect technique de directeur, et donc forcément tu peux nous illuminer sur cet aspect du jeu. J'ai un peu l'impression qu'il y a beaucoup moins d'improvisation dans le jeu de Nicky Hayen qu'il y en avait dans celui de Ronnie Deila. On sent qu'il y a des joueurs qui appliquent des consignes qui sont claires, qui sont travaillées, que le briefing il a été fait et que la théorie il a été comprise.
C'est ce qu'on a dit avant, clarté. Le joueur, il a besoin de choses qui soient très claires. Il a besoin d'évoluer, tout le monde doit évoluer dans sa meilleure position, si possible. Alors parfois tu as des joueurs qui, pour le bien du collectif, peuvent jouer dans une autre position. Mais avec Nicky Ayen, c'est clair. La manière de presser, c'est clair. Tactiquement, à la perte de balles, c'est clair. Dans le contre-presse, c'est clair. Les clés pour qu'on donne aux joueurs offensifs, c'est aussi quelque chose de très important parce que on voit un Nusa qui semble épanoui. Alors Thiago, même s'il a été peut-être un peu moins performant, mais performant, c'est quoi? C'est marquer des buts aux yeux du grand public. Mais il a quand même, et chaque semaine, il pèse énormément. Quand on va récupérer encore Skovolsen, quand je vois le milieu de terrain Onyedika à ce niveau-là, quel milieu de terrain est meilleur que lui aujourd'hui en Belgique?
Aki Bruges a donné un bon sorti d'ailleurs, c'est une info que je peux vous donner.
Quand il est à ce niveau-là, je veux dire, c'est quand même un joueur du top. Donc attention, faut certainement pas enterrer cette équipe.
Qui pourrait être en préparation pour la Conference League d'ailleurs, parce que c'est vraiment c'est l'esprit qu'il me donne. Plutôt aller chercher cette fameuse Coupe d'Europe comme une espèce de revanche par rapport à une saison qui avait tout pour être ratée. Essayer de performer, être bon dans les matchs de championnat, mais avec un prisme européen où il y a des joueurs qui vont avoir aussi. C'est ce qui s'appelle jouer à la carte. Julien, t'as joué des matchs de Coupe d'Europe, tu sais que parfois à un moment donné t'es galvanisé par autre chose que le quotidien des matchs de championnat. Pour pouvoir aller chercher la fameuse récompense, je le disais, Raphaël Onyedika, là aussi, il monte en puissance et peut-être au meilleur moment pour le club de Bruges, Thomas.
Non, ce que Julien dit concernant les postes des joueurs, c'est aussi un truc que j'ai remarqué. Chaque joueur joue à son poste. Il ose Ayen mettre un De Kuyper sur le banc et mettre un Sab à droite, alors que Sab c'est un pur arrière droit et il est très bon à ce poste-là. J'espère qu'il va garder sa place.
Enfin.
Ouais, meilleur reste à gauche. Il est très bien à gauche. Il a gardé Ordonez en défense centrale, c'est très bien comme ça. Et par contre, ce que je suis pas d'accord avec Julien, c'est que le retour de Skovolsen va faire du bien. Pour moi, pas du tout. Je pense que Skouras doit vraiment rester dans cette équipe et que ça doit rester ainsi. L'équipe type pour moi, c'est celle qu'on a vue contre Anderlecht.
Skouras doit rester dans l'équipe, ouais. Quentin ?
Très très bon match. Hein. Lors de la première journée contre le Cercle, j'ai moins aimé, il était moins bon et tout. Mais ici, même après une minute de jeu, tu vois qu'il est, il est mobilisé dans sa tête. C'est, je suis agréé. Il arrive, il fait un tacle, il récupère la balle, tout le public qui l'applaudit et tout. Tu vois que ce gars, il est monté sur le terrain avec de la hargne qu'on voyait pas, notamment lors des derniers matchs. C'est lui qui fait deux passes décisives également. Et ouais, clairement, il a fait un très bon match. Maintenant, il y aura la concurrence. T'as Skovolsen qui va revenir. Skovolsen, ça reste quand même un talent. C'est quand même quelqu'un. Si tu mets un Skovolsen à droite, un Nusa à gauche, c'est très 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 fort. Attention, il y a Zinckernagel qui va revenir aussi. Maintenant, on savait que Zinckernagel avait un crédit Deyla, le pote à Deyla, ça on le sait tous. Pour moi, Zinckernagel ne peut pas être titulaire dans cette équipe. Donc ça va être entre Skouras et Skovolsen, à voir.
Oui, mais ça c'était un caprice de Ronny Deyla.
Hein. Zinckernagel,
voilà, c'était comme la politique de mettre à droite à l'époque Max De Kuyper, parce qu'il le trouvait bon, il se dit bon bah je vais le tenter, je vais lui faire plaisir. Parfois, à un moment donné, des fois, je sais pas si toi tu t'es retrouvé en tant que directeur sportif dans des situations où tu te dis mais pourquoi est-ce que tu forces sur cette idée-là? Qu'est-ce que t'as dans la tête? C'est pas logique, en fait.
Oui, mais tu as toute une semaine d'entraînement que tu vois pas forcément.
Mais parce que maintenant, on le voit. Tu vois que c'est clair, en fait, c'est pas ça qu'il fallait faire et que ça va beaucoup mieux maintenant que c'est plus le cas.
C'est clair, mais peut-être que les joueurs qui jouent maintenant n'étaient peut-être pas performants à un moment donné à l'entraînement avant.
Okay.
Tu sais, je crois que dans le football de haut niveau, le copinage n'existe pas. Donc dire que Zinckernagel est venu parce que Deyla était son entraîneur l'année dernière, certainement que ça a aidé pour le faire venir.
C'était le discours de Zinckernagel quand il est arrivé.
Mais Zinckernagel est venu au club de Bruges parce que Zinckernagel est un très bon joueur. Mm-hmm. Point final. Et c'est pas parce que pour le moment il s'est pas encore peut-être adapté de la manière dont on l'aurait voulu que c'est devenu un mauvais joueur. Zinckernagel reste un joueur de grand talent. Il l'a montré l'année dernière au Standard. Mais tu arrives dans une équipe où, on l'a dit, Skouras, Skovolsen, tu as de la concurrence. Et quand je dis que Skovolsen va amener quelque chose encore quand il va arriver, c'est pas forcément dans le 11 de base. C'est peut-être même comme joker.
Ah ok, dans ce sens-là, ok.
Ah, oui.
Parce que moi, je trouve qu'il n'a pas la mentalité pour...
Pour moi, la concurrence, elle galvanise. Et si tu as... t'es entraîneur et que tu sais que sur ton banc, tu as des joueurs comme ça... qui peuvent être des impact players sur les 20-30 dernières minutes, c'est des armes redoutables, quoi.
Un petit mot sur l'Union Saint-Gilloise avant de passer au crack à la fraude, les amis. Voilà, tout de suite. Regarde la tête de Quentin. Il a tout de suite esquissé un petit sourire, mais en même temps de pathétisme. Hein. On sent un peu l'étonnement total du côté de l'Union. C'est en train de craquer dans les nerfs.
Ouais, mais on l'avait dit. Hein, ça fait plusieurs semaines qu'on le dit. On espère qu'ils vont pas craquer mentalement comme les deux dernières années. C'est tout doucement en train de l'être à plusieurs aspects. Déjà, le cas Burgess, c'est quand même lunaire, je trouve, de savoir que une heure avant le match, au final, il pouvait jouer, mais qu'au final, du coup, il sera suspendu contre Anderlecht. Il y a de ça. T'as aussi, je trouve, l'effort des joueurs, notamment sur le troisième goal. La Poussin, je suis désolé, il fait un très bon match, il provoque le penalty, l'action, elle est magnifique et tout. Mais t'es là, tu sais que tu dois te battre pour le titre, fais les mettre court. Si t'es fatigué, demande ton changement ou autre. Mais tu vois, comme ça, il est plus au marquage, il laisse aller son homme et après qu'il marque.
T'as oui, ça. C'était aberrant, la faute défensive, là, le fait de ne pas revenir comme ça.
C'est ça, exactement.
Il était tout à fait rattrapable, ce ballon de but mis par Sommers, hein. Il était
exactement.
Il pouvait aller le
rechercher. Et il marche, et il est comme ça, et le joueur, il court. Ben, Sommers, tu vois la mentalité. Sommers, il a envie d'aller mettre ce goal. Et la différence, c'est la Poussin, il a pas envie de rattraper Sommers. C'est ça, la différence. Je trouve Maurice qui est pas dedans non plus. Je trouve, il y a deux goals, les sorties qu'il fait, c'est pas le Maurice qu'on connaît. T'as un Amoura qui tente, mais qui maintenant est prévisible parce que justement, les adversaires le connaissent. Ouais, j'ai bien peur que même, je trouve, dans l'aspect, on parle du collectif qui est très important pour une équipe pour gagner, et ce qui représentait l'Union dont on a vanté les mérites plusieurs fois dans cette émission avec ce collectif, les joueurs et tout, on voit pour le moment, on voit beaucoup de joueurs qui s'engueulent. On a vu notamment un Tecla et un Puertas qui sont bien pris la tête l'autre jour après le match. On a ici des images qu'on n'avait pas avant, quand justement tout gagnait. Donc on sait que quand on gagne, tout va bien, mais il faut savoir se dire que quand on perd, c'est là qu'il faut être des potes, c'est là qu'il faut être solidaire. Et tout, quoi.
Julien, sur cette réflexion de Quentin, tu es sur la même longueur d'onde ou pas?
J'ai vu beaucoup de matchs de l'Union cette année. Et depuis le début du championnat, il y a quelque chose qui m'a toujours interpellé. Et c'est quelque chose de positif. C'est par exemple, tu as donné comme exemple Puertas. Depuis le début de la saison, il engueule ses partenaires quand il estime que le mec n'a pas fait la bonne course, ou etc. Tu vois. Et c'est positif parce qu'il faut savoir se dire les choses. Après, d'une bonne manière. Donc maintenant, souligner qu'il le fait plus, il l'a toujours fait.
Oui, mais
j'ai regardé
beaucoup
de matchs de l'Union, il l'a toujours fait. C'est vraiment une mentalité de gagnant et j'aime ça. Mais encore une fois, bon, ouais, tu as le sentiment que les joueurs qui ont été très très bons la première partie de saison, ils sont un tout petit peu dans le dur actuellement. Ça peut repartir. Ils ont l'effectif, je crois, pour le faire. L'entraîneur pour le faire également. Mais tu sais, gagner des titres, c'est un marathon, hein. C'est pas un sprint, hein. C'est être consistant sur toute une année. Est-ce qu'ils ont l'effectif pour pouvoir l'être? Est-ce que il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte.
L'Union Saint-Gilloise va-t-elle craquer, Julien, en quelques mots?
C'est possible, vraiment. Allez, aujourd'hui, en tout cas, on a l'impression qu'ils sont vraiment dans le dur.
Dans la tendance, ce que tu ressens là, tu sens que c'est possible de craquer ou pas?
La tendance, elle donne des signes négatifs pour le moment. Parce que les leaders de cette équipe sont pas au niveau des premiers mois. Mais bon, ça peut repartir aussi. Hein.
L'Union Saint-Gilloise va-t-elle craquer, Thomas?
Pour moi, oui, parce que je pense que Plessis ne fait pas des bons choix. C'est facile à dire maintenant pour nous par rapport aux deux derniers matchs. Mais de replacer, par exemple, Van Hout en défense centrale, c'était pas la bonne solution pour moi. Et il doit faire face à beaucoup d'absents. Donc pour moi, oui, ils vont craquer.
Allez, ils vont craquer. Donc là, on est sur l'eau tiède. Là, on est sur l'eau chaude. Est-ce qu'on est sur l'eau froide? Ils vont craquer ou pas?
Pour moi, jamais 203.
Bouillante l'eau.
Malheureusement, j'espère, franchement, pour ce qu'ils ont fait et tout, ce serait beau de les voir champions. Mais malheureusement pour moi, je pense qu'ils vont craquer.
Ça sent le craquage, effectivement. Allez, dites-nous, bien évidemment, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Est-ce que l'Union va craquer, oui ou non? On vous lira avec grande attention, comme d'habitude, dans les commentaires du Clubhouse. La petite séquence, le crack, la fraude, c'est tout de suite la séquence découverte. Je vais commencer juste, comme ça, je vais lancer, comme on n'a pas parlé du standard, ça va me permettre d'introduire juste deux secondes le sujet. L'histoire du fameux serrage de main qui n'a pas été entre Ivan Leko et Cihan Chanak. Moi, je trouve que les deux ont tout simplement un point de responsabilité assez clair. Que ce soit Cihan Chanak qui n'a pas su saisir sa chance dans le match, mais qui n'a pas à subir les foudres d'Ivan Leko, qui vient tout simplement le houspiller. C'est un gamin, 1. Il n'a pas eu beaucoup sa chance. Il a à chaque fois été transvasé dans des positions qui ne sont pas du tout ses positions naturelles. Il ne joue pas à son poste. Et là, maintenant, on vient le critiquer parce qu'il est frustré et qu'il se serre la main. C'est pas un mauvais gamin. Je suis persuadé que c'est pas du tout sa mentalité. Et pour le connaître un peu, je peux vous confirmer que c'est pas du tout le genre de mec à ne pas serrer la main quand il n'est pas content, etc., de son entraîneur. Mais de l'autre côté, il n'aurait pas dû le faire. Ça, personne n'en disconvient. Ceci dit, cette polémique, elle résume un petit peu, je dirais, la saison du Standard, le vide total, Quentin.
Ouais, moi je trouve. Alors, si on regarde dans tous les matchs, il y a souvent des joueurs qui sont frustrés, que ce soit par leur performance, d'être sortis et tout. Comme Julien l'a dit, c'est une mentalité de gagnant. Il avait encore envie de jouer, ou alors il était peut-être pas content de son match. Mais dans plein d'équipes, t'as des joueurs qui vont comme ça, qui tapent leur tape au sol et qui vont s'asseoir sur le banc parce qu'ils sont pas contents. Des grandes stars, on a déjà vu des grandes stars, des plus petits joueurs, on a déjà vu tous. On a déjà eu aussi plein de joueurs qui sortaient et le coach qui donnait ses consignes ou autre et que, lorsqu'on regarde, l'écho ne va pas non plus vers Tchanak. C'est pas comme si l'écho avait été vers Tchanak, qu'il avait tendu sa main ou quoi et que Tchanak l'avait refusé. Donc, dans tous les matchs, tu peux regarder, il y a un joueur qui ne serre pas la main du coach et qui va s'asseoir sur le banc ou autre. Donc, je trouve qu'on en fait une grosse polémique.
Pour rien.
Quelque chose qui a rien, quoi.
Effectivement. J'en profite pour, tu veux dire un mot là-dessus,
Non. Justement, comme il dit, c'est une trop grosse polémique, je trouve qu'on ne devrait même pas en parler ici. En fait.
Alors, on va en passer tout de suite au crack ou à la fraude de Quentin tout de suite. Ah,
j'en ai deux. Enfin, j'ai un crack et j'ai une fraude. Ma fraude, vite en deux secondes, je trouve, c'est Denis Sekert. La montée au jeu, malgré qu'il ait été buteur, je trouve c'est un comportement que je déteste voir, comportement anti-fair play. C'est ok, il y a de la frustration parce qu'il est sur le banc, qu'il veut jouer plus ou autre, ou qu'on lui fait pas la passe au moment où il veut. Mais je trouve que ça n'a pas sa place sur un terrain. Il y a des jeunes qui regardent le football à la télé, surtout des matchs comme ça et surtout les matchs de l'Union et des playoffs. Surtout l'Union qui veut revendiquer un public assez jeune et un nouveau public. Je trouve le comportement qu'il a eu, où deux fois c'est à la borderline de la rouge, que ce soit quand il va tirer l'oreille d'Outkous ou quand il va foutre le coup d'épaule dans Dalan, ça donne pas une bonne image.
Donc, ils perdent leur nerf.
Donc pour moi, ça c'est ma fraude et mon crack, ben c'est Hervé Coffi. Hervé Coffi qui tient la tête de Charleroi au-dessus de l'eau, notamment avec cet arrêt très très important. On a dit c'est l'équipe qui a fait la bonne affaire de ses play-downs et ça passe par un Hervé Coffi qui arrête le penalty.
Thomas.
Joueur du mois, Unibet aussi, Coffi. Hein, si je préfère préciser.
Bon, ça, tu n'étais pas, c'est pas obligé, mais
voilà, ouais, je l'ai placé. Parce
c'est
que
très
voilà.
Bien. Ton crack, je suppose pas de fraude avec toi comme d'habitude.
Exactement.
C'est l'arbitrage belge.
Ouais,
ça, Julien, il faut le dire. Il a dit l'arbitrage belge, c'est voué à être ma fraude à l'infini.
Voilà,
toi, tu es sur le terrain. Tu trouves que ça vaut une fraude ou pas l'arbitrage belge?
Ouais, tu sais, ça doit être tellement difficile d'être arbitre aujourd'hui.
Ouais.
Pour nous c'est facile à dire, mais il y a des trucs des fois, c'est trop. Vraiment c'est trop. Des fois il y a des trucs, c'est trop clair. Il y a des erreurs avec la VAR et tout. Enfin, chaque quinze pareil. Enfin, j'ai même plus envie d'en parler.
Ça reste des êtres humains derrière la VAR aussi.
Ouais, c'est sûr. Mais bon, après il y a des
tout
erreurs.
Tout est une question d'interprétation. Toujours.
Julia Gorius et Confucius, hein, vous le comprenez. le grand philosophe
non, mais
du
c'est
Clubhouse.
Compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Par contre, pour en revenir à Eckert, c'est vrai que là, c'est pour moi difficilement compréhensible que la VAR n'intervienne pas. Mm-hmm. Que ce soit pour la première situation ou la deuxième, pour moi, on doit même intervenir dans les deux.
Exactement.
Mais là, c'est quand même... c'est limite, là.
C'est limite.
Et après, il marque.
Et en plus, après, il marque.
Thomas, ton crack.
Crack, j'en ai déjà parlé. Statistiquement parlant, on peut pas passer à côté, c'est Gandelman, parce qu'il marque à tous les coups, je sais pas comment il fait d'ailleurs, mais vraiment très bon joueur, je trouve. Mais mon crack, c'est Skouras, on en a déjà parlé, je pense que je vais pas développer, vous connaissez mon avis par rapport à lui.
Il est absolument fantastique, ouais. Effectivement. Et alors maintenant, Nikaïen devra se poser la question, qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que je gagne en mettant Skovelsen ou Michal Skouras en
mentalité,
tant que titulaire?
C'est une question de mentalité. Pour moi, Skouras doit jouer par rapport à sa mentalité. Ce que Skovelsen n'a pas, je trouve. Il a pas pour moi, quand je le vois jouer, il donne pas l'envie de vouloir se battre pour le club. Et c'est ce qui manque depuis le début de saison. C'est ce que je me répète à chaque fois. Le club, les Bruges, a besoin des joueurs qui se battent pour le club. Et j'ai l'impression que Skovelsen n'est pas dans cette mentalité-là.
Julien, t'as eu le temps de réfléchir? Un crack ou une fraude?
Non,
les deux,
mais,
si tu préfères.
Mais le crack, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Et c'est un garçon que je connais très, très bien. Donc, ça a du sens pour moi de donner son nom. C'est le
qui?
Petit Elouadi.
Ouais, c'est bien. C'était mon crack aussi, magnifique.
Ouais, je sais, mais je suis obligé de le mettre parce que l'évolution de ce garçon, les deux, trois dernières années, elle est fantastique. Et c'est quelqu'un qui mérite ça parce qu'il a une mentalité exemplaire. Quand on voit les efforts qu'il fournit, c'est juste incroyable. J'ai pu travailler avec lui pendant un an et demi. Et ce gamin, il était le premier à arriver, le dernier à repartir. Il est déterminé à réussir. Il a la chance d'être bien entouré avec le contexte familial autour. Je suis vraiment très heureux pour ce gamin-là. Et je suis certain qu'il est qu'au début en plus.
Ben, je pense que c'est magnifique comme mot de conclusion. On ne pourra pas faire mieux. Julien, un énorme merci d'avoir été présent
merci
dans Clubhouse.
Merci à toi, merci beaucoup.
C'était un vrai bonheur en tout cas de t'accompagner. On est tout simplement... On est là aussi pour t'accompagner. On te souhaite beaucoup de bonnes choses. On croise
c'est
les
gentil.
Doigts. Et puis, on souhaite pouvoir te retrouver, pourquoi pas, en Pro League la saison prochaine. Thomas, merci beaucoup.
Avec plaisir.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Et à dans deux semaines.
À dans deux
mon
semaines.
Mon cher Quentin, on a un programme exceptionnel et des invités aussi pas mal. On vous réserve la surprise, mais ça va bouger. Le Clubhouse est en train d'évoluer et c'est super. Encore un grand merci à toi, Julien. Et puis, merci à vous, comme d'habitude, pour votre fidélité. N'oubliez pas le like et on s'abonne. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.